au 98.5. Vous écoutez une émission spéciale sur les 30 ans de la tragédie à la Polytechnique.
Il a fallu l'intervention d'une bonne vingtaine d'ambulances, d'urgence santé, de techniciens, d'ambulanciers, de même que de médecins, pour traiter sur place des gens, transporter 12 ou 13 personnes dans trois hôpitaux différents. Pour ce qui est des policiers, ils sont toujours sur place. Une imposante équipe d'enquêteurs de la section des homicides tente actuellement de reconstituer les faits.
Voici Bernard Drainville.
Parmi les premiers arrivés sur place, il y a eu le policier Yves Francoeur, qui était patrouilleur au poste 31. Il arrive sur les lieux avec son confrère Robert Giroux. Et parmi les premiers arrivés sur le campus pour urgence santé, il y a eu André Beaulieu qui est arrivé avec son collègue Philippe. Yves Francoeur, bonjour.
Bonjour, M. Drainville.
André Beaulieu, bonjour.
Bonjour, M. Drainville.
30 ans plus tard, Yves Francoeur, première image qui vous vient à l'esprit, je vous dis Polytechnique.
Alors, première image, moi, c'est toujours la même. Là, lorsque je me suis retrouvé au deuxième étage, je me souviens très toujours d'une étudiante en haut des escaliers roulants, pas loin d'une photocopieuse, qui lui manquait la moitié du visage. Et ça, c'est la première image. Et au moment où on est entré, on s'est dirigé vers la salle de classe parce que les étudiants et étudiantes qui couraient nous dirigeaient vers la salle de classe. Et ensuite, j'ai gardé comme scène de crime la salle de classe avec les 6 étudiantes qui avaient été tuées. Ce sont des vieux locaux, c'est pas tout à fait carré, un petit peu rectangulaire. Et sur le mur au fond de la salle, il y avait une échelle en métal qui montait à un soupirail. Mmh. Et le soupirail, les gens ne le savaient pas, mais quand tu t'approchais, il y avait un cadenas, c'était verrouillé. Mais les gens avaient tenté de se sauver par là. Et le mur du fond, il y avait des éclats de chair. C'était dégueulasse. C'est la deuxième image. Puis la dernière, j'ai gardé la salle de classe avec mon confrère Robert Giroux, que je salue, presque jusqu'à 5h ou 5h30 le lendemain matin. Et l'autre image que j'ai toujours en tête, c'est que ils ont improvisé une morgue pour amener les étudiantes.
Ouais.
Et quand nous, on a quitté, mais que les enquêtes étaient là, les familles arrivaient.
Ouais.
Des gens en pleurs, des gens en hystérie, là. Tout à fait comprenable. Là, tu t'attends pas à une situation comme ça. Donc, c'est les images qui me sont restées.
André Beaulieu.
Moi, c'est pas tant les images qui me sont restées. Je dirais même, on dirait que quelque part, mon cerveau a fait un blocage. J'essaie de chercher. J'ai pas tant d'images que ça de gens comme M. Francoeur les a décrites. Ce que je retiens, c'était le chaos, le brouhaha, l'inconnu. On plongeait dans une situation auquel personne n'était habitué. J'ai appris tantôt que c'était la première fois qu'il y avait un événement comme ça en Amérique, aussi gros. On pense que maintenant, aux États-Unis, il y en a tout le temps, mais dans ce temps-là, c'était une première en Amérique comme ça. Fait que pendant qu'on le vit, on n'est pas là pour réfléchir, on est là pour agir. Puis c'était assez intense, effectivement. Je me souviens qu'à un moment donné, il y a une information qui circulait, il y avait encore des étudiants. Il y aurait un deuxième tireur. Wow, un instant, on est plongé là, nous autres, puis on apprend qu'il y a un deuxième tireur. On n'a pas de veste antibal, on n'a pas de gun, on n'est pas protégé, nous.
Vous êtes à l'extérieur à ce moment-là de la bâtisse?
On est à l'intérieur.
Vous êtes à l'intérieur?
Oui. Nous autres, on est la deuxième vague. La première vague d'ambulance qui est arrivée, les deux premières, sont malheureusement parties avec des patients blessés relativement mineurs, là, que leur survie n'était pas en danger. Mais à l'époque, les gens étaient mal formés, les gens ne faisaient pas savoir que le premier qui arrive, c'est le dernier qui part. Maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne. La première ambulance qui arrive, c'est un accident d'autobus, mettons. Ça va être la dernière à partir. Elle se trouve à faire le poste de commandement jusqu'à temps qu'un chef d'opération arrive sur les lieux.
Allez-y. Et même nous, les policiers, dans ce temps-là, les communications sont pourries. On a des vieux walkie-talkies qui servent plus d'armes offensives que d'outils de communication. Aussitôt qu'il y a un bloc de béton à proximité, les communications ne passent pas. Mais nous, les policiers, on était complètement démunis. Là. On n'est pas spécialisés, nous, en intervention de santé d'urgence. Là. Mais on avait des victimes dans les mains, puis on tentait de communiquer. Laisser entrer les paramédics, laisser rentrer les ambulanciers. Où on est, l'endroit est sécurisé, il n'y a plus de danger. on a besoin de ressources pour soigner ces gens-là, mais, ces personnes-là.
Mais vous n'arriviez pas...
Il n'y a rien qui passait, comme communication, puis les ambulanciers n'arrivaient pas.
Mais je suis même pas sûr qu'aujourd'hui, ça passerait. Quand on est dans le métro, le béton, là, des fois, on est dans des bâtiments comme ici, puis ça passe pas. De toute façon, nous autres, problème était réglé. On n'avait pas de radio portatif. On n'avait pas de walkie-talkie, point.
Mais, alors, c'est vrai, André Beaulieu, que vous n'avez pas pu entrer aussi vite que vous l'auriez voulu.
Ben,
c'est vrai, ça?
Nous, c'est assez rapidement, parce que, comme je vous dis, c'était nous autres, on est arrivés là à 17h34.
17h34?
Oui, je pense que l'épine, j'aurais pas dû le nommer d'ailleurs, l'agresseur, était déjà, s'était déjà enlevé de la vie là, à ce moment-là. Non, l'attente n'a pas été si longue que ça pour nous, parce que, comme je vous dis, ça faisait déjà, l'appel était rentré à 17h14, je crois. Alors, nous, on est rentrés, mais comme je vous dis, rendu là, on fait de la reconnaissance dans le fond. Là. On doit explorer, c'est immense et c'est un labyrinthe. Là.
Oui. Puis vous trouvez.
On fait de la reconnaissance, essayer de trouver, parce qu'il y a des différents étages, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi, j'ai pas mémoire d'avoir vu la salle où est-ce qu'il y a le plus de morts, là, de victimes. C'est
celle que Yves Francois gardait, là.
Ouais. Mais on est allé, je pense, rapidement au deuxième, et ça n'a pas été long. C'était la deuxième salle où est-ce que l'agresseur s'est enlevé la vie. Et à ce moment-là, nous, de mémoire, il n'y avait plus personne de vivant qu'on pouvait rien faire. Là. On a des méthodes de triage maintenant qui sont assez simples et faciles à considérer. Ça va être cru ce que je vais vous dire. Là. Ça fonctionne par couleur. Le vert, le jaune, le rouge et le noir. Les verts, c'est pas difficile. Vous avez, mettons, un accident d'autobus, il y a des gens. Ceux qui sont debout, vous êtes capables de marcher, allez-vous en droite. On vient d'éliminer les verts. Ils peuvent être soignés plus tard parce qu'ils sont capables de marcher. Après ça, les jaunes, c'est ceux, mettons, qui ont de la misère à respirer, mais ils sont pas bleus comme un raisin. Après ça, vous avez les rouges qui sont presque au bout de leur sang, qui ont de la difficulté à respirer énormément. Ça, il faut s'en occuper tout de suite. Puis les noirs, ça inclut ceux qui sont déjà morts ou ceux qui sont sur le point de mourir. Je sais que c'est drastique ce que je dis là, mais des méthodes de triage, de mass casualty, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait qu'une personne, mettons, à la guerre, là, je l'ai été d'ailleurs dans l'armée, là. Les médés qui arrivent devant un gars qui a une explosion de grenade, puis tout son estomac est complètement sorti. Malheureusement, s'il y a une dizaine de blessés, il ne perdra pas de temps avec lui. C'est plate à dire, mais le délai qui a été causé à cause que à cette époque-là, on ne pouvait pas entrer sur les lieux, il fallait sécuriser la scène, ça, j'étais d'accord avec ça. Ça a peut-être sauvé les vies de d'autres personnes parce que des collègues non formés se seraient acharnés, malheureusement, sur des cas qu'on ne pouvait pas sauver.
Qu'est-ce qu'on a appris de ça, Yves Francois? Si ça se produisait aujourd'hui, en quoi l'intervention policière serait différente?
Ben, elle serait totalement différente. Parce que dans ce temps-là, la première des choses, ça a été traité comme une prise d'otage. Une prise d'otage, la façon de faire, c'est que tu fais un périmètre puis tu attends les services spécialisés.
Tu attends le SWAT.
Tu attends
l'escouade tactique.
L'escouade tactique, les négociateurs.
C'est ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Les patrouilleurs comme vous, vous avez dû attendre l'arrivée de l'escouade tactique. Hein?
Ben, nous, on a dû attendre effectivement parce que nos officiers nous ont dit de faire un périmètre et à ce moment-là, le directeur du district, quand il est sorti, il a dit 31,99, je prends en charge l'opération, personne qui rentre, aucun move sans mon autorisation. Et là, moi et mon partenaire Robert Giroux, là, je vous avoue que ça nous démangeait de rentrer, là, tu sais. Et pas longtemps après, là, on a pu rentrer parce que tu peux pas rentrer de ta propre initiative parce que tu crées une brèche, effectivement. C'est une prise de tâche.
Oui.
Mais les méthodes, la formation a changé. Maintenant, les gens rentrent,
c'est
foncent
ça.
Vers la menace.
Vous seriez arrivé aujourd'hui, vous rentrez, là. Hein? Le patrouilleur, il rentre, là.
Exactement. C'est les réflexes que les policiers ont. C'est les réflexes qu'on a toujours eus, mais maintenant, la formation dit « tu rentres effectivement » et ceux qui vont arriver en support par la suite maintenant, eux, puis à Montréal, on a une chance, c'est-à-dire qu'on est capable de mobiliser du personnel en nombre important de façon très rapide, puis les communications se sont beaucoup améliorées. En tout cas, nous, pour le service de police, les endroits à Montréal où les communications ne passaient pas, comme dans le métro, il y a eu des antennes d'installer, des choses comme ça, là, tu sais. Fait que, effectivement, comme je croisais tantôt ici M. Tessier, ancien directeur aux enquêtes.
Il va être là en deuxième heure, d'ailleurs.
C'est ça, qui était en charge de l'enquête. Et qui me disait que c'était le premier événement d'une ampleur comme celle-là dans un établissement scolaire en Amérique du Nord. Puis on a été chanceux par la suite, je vous le cache pas, j'ai des confrères, des consoeurs à Dawson, qui ont fait un travail extraordinaire. Il y avait la chance d'être en avant des lieux quand c'est arrivé.
Et ça a limité.
Et grâce à ça, ça a limité les dégâts, les victimes. Là.
Oui,
Mais encore là...
On a perdu c'est... Anastasia à Danson.
Oui.
On a perdu Anastasia.
Et d'ailleurs, il y a eu la loi Anastasia par la suite.
Voilà.
De notre côté, pour remplacer le fait qu'on n'avait pas d'étiquette de triage, chaque personne blessée qu'on découvrait, il y avait encore des étudiants parce qu'il y avait plus de coups de feu, là, c'était plus calme. Fait qu'on se servait d'un étudiant comme d'une étiquette de triage. On lui expliquait qu'est-ce qu'il y avait. Prochaine équipe qui arrive, tu leur dis ça, puis ils partent avec. On continuait notre reconnaissance des lieux tout en soignant des gens. Je me suis même servi des policiers comme c'est une intervention dans le public. Dans la foule, on s'aide. Des fois, il y a des fatigants. On s'en sert avec des badauds pour nous aider. Là, je ne traitais pas les policiers de fatigants. Mais il y a un policier sans mieux qu'une jeune fille qui est debout et blessée à l'épaule. Je lui donne des bandages. Je mets ça sur son épaule. Il va t'en dehors avec tout de suite. À marche, c'est parfait. Fait qu'on s'en est servi comme ça, comme secouriste.
Vous avez fait une sortie, André Beaulieu, en 2009.
Ouais.
Vous avez dit, les 14 femmes qui ont été tuées, il faut s'en rappeler toujours, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu 14 blessés et ils ont tous survécu. Vous teniez à dire, n'oubliez pas, on a quand même... Puis ça, c'est quand même assez rare que parmi l'ensemble des blessés, il n'y en ait aucun qui ait péri par la suite. Ce que vous disiez dans ce texte que j'ai sous les yeux,
oui,
c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Voilà, vous avez envoyé une lettre à la presse.
C'est parce que nous, on, comme je vous dis, une personne que je traite, que j'ai dans l'espoir de traiter, qui ne survit pas, c'est un décès, c'est malheureux, je ne peux plus rien faire pour elle, mais la personne que je peux soigner puis espérer lui sauver la vie puis qu'effectivement ça fonctionne, bien, on est content, mais elle, elle survit avec le souvenir de tout ce qui s'est passé, comme les survivantes le font maintenant. Puis souvent, je trouve que dans les médias, on parle des 14, des 14, des 14, mais il y en a eu 14 autres. Les gens vivent avec ça, leurs familles vivent avec ça. Puis c'est pas toujours facile. Vous savez qu'un de nos collègues qui était étudiant à Polytechnique, Patrick Walsh, il s'est décédé par suicide 3 ans après parce qu'il n'a pas pu survivre à ce qui s'était passé là. Il y a un autre jeune homme qui était, je pense, dans une des salles quand l'agresseur a dit « on sépare les hommes dehors, les femmes pour rester ». Il y en a un qui n'a pas survécu à ça, il s'est suicidé. Et un an après, ses parents se sont suicidés.
Ouais, c'est incroyable, ça.
Ça a des conséquences. Les victimes se comptent par centaines, là. Tu sais, je regarde tous les policiers, les paramédics qui sont intervenus là-dessus, les répartiteurs qu'on a urgence santé, les infirmières dans les urgences d'hôpitaux, ça a un impact sur tous ces gens-là. On le vit peut-être pas de la même manière, on s'en rend peut-être pas compte sur le coup, mais c'est là quand même.
C'est incroyable. En terminant, dites-moi, Yves Francoeur, est-ce que vous avez des images de ça? Est-ce que vous avez, est-ce qu'on reste marqué par ça? Ou est-ce que, bon, je suis un policier... Je dois être capable de gérer ça. Avez-vous eu besoin d'aide?
Le programme d'aide n'existait pas dans ce temps-là. On s'est réunis dans un restaurant que je n'aimerais pas. Et il n'y a pas eu d'excès, mais on a relaxé aux anciennes méthodes. j'ai découvert pour la première fois de ma vie que un brandy grec, ça s'appelait un Metaxoc. Et c'était ça, notre programme d'aide. Là. Heureusement, à Montréal, on a fait beaucoup, beaucoup de progrès depuis ce temps-là. Mais ce qui est le plus déprimant aujourd'hui, moi, je regarde ça là, comme policier, c'est que qu'est-ce qui est arrivé depuis Polytechnique? Je pense qu'on n'a pas appris. Les conservateurs ont démantelé le registre des armes à feu.
Et là, Trudeau
en
promet.
2008.
Et là, Trudeau promet d'interdire les armes d'assaut de type militaire.
Oui, mais manque de couilles, manque de courage politique. Laisser aux villes le contrôle, la possibilité de bannir les armes de poing. Voyons donc, Montréal va le faire, Laval non, Longueuil oui. Ça fait aucun sens. Et les derniers sondages que j'avais vus de Léger, 70% de la population canadienne était en faveur d'un contrôle des armes à feu. Mais moi, j'espère juste que des jeunes vont reprendre le combat pour un meilleur contrôle des armes à feu, comme dans les pays nordiques, la Norvège, le Danemark.
Yves Francoeur, patrouilleur, le soir de cette tragédie à Poly, merci pour l'entrevue.
Merci à vous.
André Beaulieu, qui était paramédic pour Urgence Santé, le même soir, merci beaucoup.
Bienvenue.